Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Tout sera étrange à l'image. Tout, comme une partie à blanc, même si ce soir c'est le retour de la compète. Premier match de foot officiel depuis la mi-mars. PSG Saint-Etienne, finale de la Coupe. À première vue, une déclaration d'avant-match normale. Au micro de Cyril de la Morinerie, l'entraîneur des Verts, Claude Puel.
On n'est pas favori. L'objectif, c'est de s'éclater, d'être à un très bon niveau, de jouer notre batou et d'être acteur dans ce match.
On n'est pas favori, on va essayer de s'amuser, deux grands classiques comme avant. Et pourtant, sur France 2 ce soir, tout sera étrange à l'image. Un stade de France quasi désert, quelques milliers de personnes seulement sur les 80 000 places possibles. On va entendre le vide. Un président de la République qui va descendre sur la pelouse, saluer les joueurs, mais comment? Coude contre coude, peut-être bien. Et quand la coupe sera brandie par le capitaine de l'équipe gagnante, qui pourra applaudir? PSG Saint-Etienne sous Covid ce soir, que le meilleur gagne. Ce match, le journaliste de l'équipe, Vincent Duluc, va à nouveau le couvrir. Retour au boulot 3 mois après sa sortie de l'hôpital. Forme très sévère du coronavirus. 3 semaines en réanimation. Vincent Duluc vient nous donner de ses nouvelles. Très belle série d'été en cours dans le journal Le Monde. De Belmondo à Bébel. 6 épisodes consacrés aux comédiens. Son auteur, Samuel Boulmenfeld, est avec nous. Après 10h, Jeanne Haddad en plein air. La chanteuse sort un nouvel album de 8 titres. Elle a emprunté quelques chemins de traverse. Le projet s'appelle R, Jeanne Haddad en studio tout à l'heure. Culture, médias d'été en direct jusqu'à 11h. Soyez les bienvenus, ça commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Qu'y a-t-il au sommaire de votre journal des médias?
Le CSA ne veut plus de haineux. J'ai deux amours, Pascal, et puis star à domicile.
Les audiences tout de suite.
Les audiences hier soir. C'est TF1 qui s'impose. Je crois qu'il y a un petit générique, moi, là-bas. Si, on l'entend ?
Moi aussi, on l'entend. Un tapis.
C'est TF1 hier soir qui s'impose avec Les Vacances de Ducobus. C'est un film. 3,2 millions de téléspectateurs. Juste derrière France 3 avec le lancement de sa nouvelle série policière Disparue. 2,2 millions de téléspectateurs. Et puis pour fermer la marche, France 2 avec les 35 ans des Victoires de la musique. 1,8 million de téléspectateurs.
Jingle, merci beaucoup.
Culture Média.
C'est mon casque qui était mal réglé.
On va tout savoir. Voici donc le CSA qui lui aussi rentre dans la danse pour lutter contre la haine en ligne.
On vous parlait hier encore de Twitter qui fait le ménage dans ses comptes complotistes, racistes, homophobes, misogynes. Le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veut aussi faire voir qu'il prend tout ça très au sérieux et qu'il veut...
Ça va, Martin,
c'est un peu compliqué ce matin. Ça se voit, ça s'entend.
Non, pas du tout, continue.
Et le CSA veut donc faire voir qu'il veut mettre fin à la haine en ligne en France. Alors c'est un peu pompeux, mais le CSA vient de lancer un observatoire de la haine en ligne, c'est son nom, présent dans cet observatoire. Tous les représentants de ceux qui comptent sur Internet. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat ou encore Twitch. Alors, en quoi consiste exactement cet observatoire? Pour l'instant, soyons honnêtes, rien de concret. Ce sont des gens du milieu qui se réunissent entre eux autour d'une table pour réfléchir à un monde meilleur et discutent avec des associations. Il y a notamment des associations contre le racisme, contre l'homophobie, pour une meilleure inclusion des handicapés ou encore des associations de défense des intérêts des enfants.
Observatoire de la haine en ligne, OHL. On continue avec Canal+, qui va produire une nouvelle grande série, un biopic.
Je vous laisse d'abord écouter ces quelques notes, si vous le voulez bien.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Nous sommes en 1930, le monde vient de quitter les années folles. Et cette nouvelle décennie s'ouvre avec une crise financière planétaire et les prémices du nazisme. Heureusement, au milieu du chaos, une petite voix vient murmurer l'amour aux Français. Elle a 24 ans et elle s'appelle Joséphine Baker. Canal+ va en faire l'égérie d'un nouveau biopic. Canal+ a un tout petit peu hésité, pour être honnête, à faire un film plutôt. Mais l'idée d'une série s'est vite imposée parce qu'il faut plusieurs épisodes pour raconter les vies de la chanteuse, qui est aussi danseuse, actrice ou encore militante contre le racisme. L'un des producteurs de cette future série, Marco Cherki, est à notre micro.
Ça va nous permettre de raconter toutes les facettes de Joséphine Baker. À l'âge de 18 ans, elle quitte les États-Unis. Elle a déjà 2 divorces. Elle arrive en France, et donc on arrive en France une femme déjà même libre, toujours cette volonté d'être libre dans sa sexualité, libre dans ses amours, qui va rentrer tout de suite dans la résistance et deviendra espionne pour le compte de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand elle retournera aux États-Unis faire des tournées, si un club n'accepte pas un public noir, elle refuse de jouer. Elle s'engagera auprès de Martin Luther King pour la grande marche noire aux États-Unis.
Alors dans la série, beaucoup d'anecdotes. On découvrira par exemple comment la franco-américaine a dissimulé pendant la guerre des messages secrets au milieu de ses partitions.
Mmh. C'est à moi ?
C'est à vous.
D'accord, ok. Est-ce qu'on connaît la date de diffusion, Martin ?
Non, Canal+, on n'en est encore qu'au tout début. Les producteurs sont en train de recruter des scénaristes et ils ne savent pas qui incarnera Joséphine Baker. Ce sera sûrement une actrice américaine, car la série sera en anglais. Un peu comme Versailles, vous savez. C'est plus facile après pour Canal+, pour vendre ses créations dans le monde entier.
Évidemment. On termine avec un peu de douceur. France Télé veut nous faire danser et chanter.
Ça fait des semaines qu'on se demande à France Télé comment faire avec ce virus bien embarrassant. Personne ne peut aller de concert et profiter d'un été festif. Alors France Télé a eu une idée avec sa plateforme Culture Box. Si on ne peut pas aller voir des artistes sur scène, pourquoi ne pas faire venir des artistes dans nos salons ? Avec le Culture Box Festival, France Télé fait monter les artistes du moment sur la scène de la Cigale, la mythique salle de concert parisienne. Bon, on a quand même demandé à Pierre Bloch de Fribert, patron de Culture Box, comment il allait faire pour qu'on s'y croit vraiment. On l'a appelé, il était encore en pleine préparation.
On a souhaité un peu réagir et proposer à notre public du live, du vrai live avec des groupes de la scène actuelle française, parce qu'on avait envie de cette émotion, de retrouver cette émotion. On va pouvoir, à l'aide de l'œil de la caméra, entraîner, je dirais, nos spectateurs en immersion à travers ces différents concerts. Les artistes vont s'adresser directement aux spectateurs, droit dans les yeux, à hauteur d'homme.
Alors ça a commencé hier soir, 22h15 hier soir, c'est précis. Pépite monte sur scène, vous savez, c'est ce groupe de deux potes qui se présentent comme faisant de la pop expérimentale avec des influences des années 60 et de hip-hop. L'un de leurs tubes, Tant de peine, et ça donnait ça.
C'est un tube ?
C'est un tube, vous connaissez pas Tant de peine ?
Non.
C'est un joli tube pourtant. Ça continue ce soir avec une programmation plus féminine. Il y aura notamment cette jeune rappeuse de 24 ans, Meryl, et son dernier tube, Billet. Culture Box Festival, soirée 2, c'est à 20h30 sur France.tv pour passer un bon week-end.
Merci Martin Cangelosi, et puis arrêtez de me regarder comme ça, ça va deux minutes.
Ça va finir par savoir.
Ben oui, musique. Et pour mon titre du jour, enlevez donc vos chaussures. Saudade, voici Césaria Evora dans Culture Média. Belle matinée à vous.
Saudade, saudade, Soda desnia teras a min clau. Si vou escrever, muita escrever. Si vou esquecer, muita esquecer. Até dia que vou voltar. Si vou escrever, muita escrever. Si vou esquecer, muita esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau. Saudade, saudade.
Césaria Evora sur Europe 1, Saudade. Tout de suite, une série d'été vraiment pas dégueulasse.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
C'est vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
C'est l'un des petits bonheurs de l'été et nul besoin d'être en vacances pour le siroter jour après jour. Le journal Le Monde consacre sa première série d'été au comédien Jean-Paul Belmondo. 6 épisodes dont le dernier sera publié demain. De Belmondo à Bébel, un très beau travail signé du critique signé Samuel Blumenfeld. Il est là en studio. Bonjour Samuel Blumenfeld.
Bonjour.
Pourquoi lui ? Pourquoi Jean-Paul Belmondo ? Bon, j'ai bien conscience que la réponse figure dans la série, mais quand même, comment ça arrive, une telle chose ?
Pourquoi lui ? Parce qu'en fait, il est avec Alain Delon, le plus grand comédien français, acteur français de l'après-guerre. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs, quand on voit l'après-guerre du cinéma français, à partir des années 50, c'est que comme Racine et Corneille, en fait, de manière miraculeuse, ont surgi deux stars françaises qui ne se ressemblent pas, qui sont en fait en tout point dissemblables.
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir. On a un Belmondo qui est solaire et un Delon qui est lunaire. On a un Delon qui est plutôt splénétique, alors qu'on a un Belmondo qui est plutôt du côté du clown. Donc, le cinéma français a eu cette extraordinaire chance d'avoir deux comédiens que la plupart des cinématographies au monde n'ont jamais eu.
Donc c'est votre choix, c'est pas une demande de votre direction, c'est vous c'est... Un peu des deux.
Non, c'est absolument mon choix.
Ah ouais.
C'est absolument mon choix, parce qu'en fait, le cinéma a beaucoup à voir avec l'enfance, et j'appartiens à une génération qui, non seulement a grandi avec Belmondo et Delon, mais en fait a été éduquée par ces deux comédiens.
Mmh. Samuel Blumenfeld, pour sortir là, 6 épisodes de cette série très très fournie, vous commencez quand ? Vous y mettez à quel moment ?
Je commence à m'y mettre à partir du mois de février. C'est-à-dire que je commence à voir les films, je commence à interroger des gens qui ont travaillé avec Jean-Paul Belmondo. Et concrètement, j'entre dans le dur, à savoir l'écriture, 8 semaines avant la publication de la série.
S'attaquer à Jean-Paul Belmondo, c'est comme être devant une montagne, un travail de titan vous attendait, et aussi une méthode à trouver. Comment avez-vous procédé ?
Il est aussi difficile de savoir ce que l'on va écrire que ce que l'on ne va pas écrire. Puisqu'en fait, vous n'écrivez pas un livre. Donc au moins, quand vous écrivez un livre, vous êtes vous avez un devoir d'exhaustivité. Quand vous écrivez une série pour un journal, il faut savoir choisir. Il faut savoir angler régulièrement. Donc pour chaque épisode de la série correspondant à un moment clé de la carrière professionnelle de Belmondo, il faut savoir trouver l'angle exact. Alors je vais vous donner un exemple pour que l'auditeur comprenne d'emblée. Par exemple, quand, d'évidence, quand il faut ouvrir Belmondo, une série sur Belmondo avec À bout de souffle, qui est le film qui l'intronise en star. Simplement, comment est-ce que vous racontez À bout de souffle, qui est non seulement un film connu du monde entier, mais que n'importe quel lecteur a l'impression de connaître. Comment est-ce, par quel angle on attaque ça pour,
oui,
pour le raconter autrement ?
Comment faire autre chose de la plus-value ?
Alors, la plus-value, c'est qu'en fait, l'histoire, les débuts de Jean-Paul Belmondo, c'est quelqu'un qui est né star, mais qui n'était justement reconnu par personne, qui a passé toute sa carrière, tout son apprentissage au conservatoire, mais au-delà, sur les plateaux de cinéma, lorsqu'il était deuxième et troisième couteau, à entendre dire que justement, il avait précisément le physique de quelqu'un qui ne pourrait jamais faire carrière.
Et là, c'est parti, c'est votre accroche, et c'est votre ligne pour... Alors, Samuel Blumenfeld, je voulais revenir sur la méthode plus globale. Vous avez eu raison de dire qu'il y a ce qui figure et il y a ce qui ne figure pas. Vous aviez quand même une démarche, vous avez choisi de vous attacher à des films clés et surtout à des réalisateurs. C'est ça votre trame quand même.
Absolument. C'est que de toute façon, la carrière d'un acteur se conjugue nécessairement avec la rencontre avec un réalisateur, donc avec un grand artiste. Donc chez Belmondo, vous avez la période Godard, vous avez la période Melville, vous avez la période de Broca, vous avez l'intermède François Truffaut. Et donc vous ne pouvez pas séparer en fait la trajectoire de cet immense comédien avec les très grands metteurs en scène qu'il a croisés.
Et surtout, vous avez choisi de raconter quasiment comme si on y était, ça grâce à votre grande connaissance du cinéma, grâce à votre plume, et puis aussi grâce à quelques témoignages essentiels, là aussi il fallait les choisir.
Alors, il faut choisir les témoignages, mais je dirais à l'intérieur des témoignages. Parce que les gens qui vous parlent ne vont pas écrire l'article à votre place. Il ne s'agit pas de recueillir et puis de retranscrire.
Non, chacun son travail.
Chacun son travail. Mais ce qui est très important dans les témoignages que vous collectez, c'est souvent en fait ce qui vous fait avancer dans une série, c'est un détail. C'est le détail anodin que lâche presque involontairement la personne que vous rencontrez.
Exemple.
Un tout petit détail, quelque chose que vous apprenez et qui vous permet d'avancer. Je vais vous donner un exemple précis. Quand j'ai rencontré René Chateau, qui a été à partir de la fin des années 60 l'attaché de presse de Belmondo avant de devenir son producteur, véritablement son éminence grise. René Chateau m'a dit qu'au début de la carrière de Belmondo, lorsqu'il commence à le fréquenter, Belmondo lui avait dit « Mais pourquoi est-ce que tu souris ? Pourquoi est-ce que tu fais la tête, René ? Moi, même quand je fais la tête, je souris toujours. J'ai toujours un sourire de façade. » Et en fait, ça m'a permis de comprendre un élément fondamental du tempérament de Belmondo, à savoir que c'est quelqu'un qui régulièrement masquait sa mélancolie. Donc derrière Bébel, en fait, le fameux Bébel qui est un peu superficiel, se cachait un Belmondo que j'avais le devoir de faire émerger.
Vous n'avez pas, j'imagine, Samuel Blumenfeld, parlé à Jean-Paul Belmondo pour cette série, c'est pas l'objet.
Alors ce n'est pas l'objet, d'abord parce que Jean-Paul Belmondo a eu un AVC, donc a des preuves. À des problèmes d'élocution, c'était pas une volonté de sa part de ne pas parler.
Oui, ça aurait pu être par mail. Oui.
Ça aurait pu être par mail, mais ça semblait compliqué. Mais en fait, il faut toujours, en journalisme ou ailleurs, transformer la contrainte en atout. Et en fait, ne pas pouvoir parler à Jean-Paul Belmondo m'obligeait à tourner autour de lui. Et donc, tourner autour de lui, en fait, vous permet de ne pas être prisonnier de son point de vue.
Avez-vous eu des retours de sa part ? Savez-vous s'il vous a lu et s'il a aimé ce que vous avez écrit ?
Alors, j'ai eu... ça fait partie des moments qui, tout d'un coup, qui font votre carrière de journaliste, enfin, qui apportent le plaisir, ces moments privilégiés d'une carrière de journaliste, qui est l'un des plus beaux métiers du monde, c'est que mardi matin, j'ai reçu un texto de Jean-Paul Belmondo. En fait, le texto, c'était une photo de lui attablé avec mon article sur sa table et donc lui en train de le lire.
Sans commentaire.
Sans commentaire, mais il n'y en a pas besoin.
Extraordinaire.
Extraordinaire.
On va entrer dans le vif de cette carrière et de cette personnalité exceptionnelle qui commence à bout de souffle et que vous racontez pendant un été placé sous la menace du retour du virus. C'est comme ça. À tout de suite, Samuel Blumenfeld. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Le critique cinéma du Monde, Samuel Blumenfeld, signe l'une des séries d'été du journal, de Belmondo à Bebel. On ne va évidemment pas pouvoir tout retracer ici, mais quand même les débuts, hein, qui nous renvoient 62 ans en arrière. Été 1958, Saint-Germain-des-Prés, une gueule, une dégaine. Belmondo a 25 ans et vous le disiez tout à l'heure, il est atypique, ça a commencé par le desservir.
Absolument. Il est atypique, il a exactement le physique qui ne peut pas faire une carrière au cinéma à l'époque.
Parce qu'on
est dans une culture du jeune premier, donc dans des physiques défaites, des physiques classiques. La gueule cassée de Belmondo, c'est une gueule cassée, puisqu'il y a ce fameux nez cassé, mais qui va devenir aussi célèbre que celui de Cléopâtre. Mais c'est précisément cette gueule-là qui ne peut pas faire carrière au cinéma. Sauf que l'avenir, quasiment le présent, appartient à Belmondo. Mm-hmm. Ce qui est très étrange, c'est l'asymétrie qu'il y a entre les décideurs, c'est-à-dire en l'occurrence les professeurs de Belmondo au conservatoire qui l'humilient régulièrement, les producteurs qui régulièrement expliquent à Belmondo qu'avec cette tête-là, il ne peut pas faire carrière. Et l'aura dont dispose Belmondo auprès de ses camarades de conservatoire, qui sont tous persuadés qu'il est la star.
Oui, il est déjà chef de bande.
Il est chef de bande.
Alors, il y a qui à ses côtés
Il y a Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Françoise Fabian. Il y a une génération exceptionnelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des demi-portions. Mais même au milieu de cette génération exceptionnelle, Belmondo, lui, est déjà au firmament. Et ce que fait Godard en repérant Belmondo, en fait, c'est qu'il met le doigt sur une évidence, simplement.
Oui, effectivement, on est en août, je crois, 58, et là, Belmondo qui se balade, tombe sur un type bizarre, parasé, mal coiffé, sinistre, écrivez-vous, qui l'invite dans une chambre d'hôtel, hein, c'est Godard.
Absolument, et Belmondo se dit, chambre d'hôtel, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il me veut?
Et en même temps, Belmondo se dit, mais bon... De toute façon, je suis boxeur. À un moment, Belmondo songeait vaguement à une carrière de boxeur professionnel. Et il se dit, bon, de toute façon, je saurai me défendre quoi qu'il arrive. Et il tombe effectivement, il découvre que c'est bien un court-métrage que le nommé Jean-Luc Godard tourne.
Tout commence comme ça, avec la nouvelle vague et le tournage d'À bout de souffle. Alors, je vais spoiler la fin de ce premier épisode, vous ne m'en voudrez pas. Je vous lis. Jean-Paul Belmondo est l'un des seuls acteurs qui sache mourir, expliquera plus tard Godard. Bogart savait, Belmondo sait. Et vous concluez, Jean-Paul Belmondo n'a pas encore 27 ans et il est déjà immortel. Parce que là, c'est parti tout de suite.
C'est parti tout de suite. Il y a quelques seconds rôles de Belmondo au cinéma, mais pour son premier rôle vedette, il s'inscrit d'emblée dans l'histoire du cinéma. Ça y est, il est... il ne disparaîtra plus jamais des mémoires.
Mmh. Alors ensuite, évidemment, on croise Melville, Gabin, Truffaut et Deneuve, du coup. Jusqu'où allez-vous dans cette série, c'est Mel Blumenfeld? Vous arrêtez où demain matin?
Je m'arrête à la fin des années 80, principalement. En l'occurrence, Itinéraire d'un enfant gâté, qui, je dirais, j'ai le dernier film le dernier film notable de Belmondo, son dernier très grand succès public. Ensuite, on passe à autre chose. C'est une carrière cinématographique qui est davantage en pointillé. Mais il faut bien se rendre compte que les carrières commencent, mais aussi se terminent. Il n'y a pas de carrière qui se poursuit jusqu'à 80-90 ans. Une carrière, c'est souvent au firmament, 100 ans. 15-20 ans, et c'est déjà énorme.
Belmondo avait commencé en alternant cinéma d'auteur et cinéma populaire. Chemin faisant, il a choisi le second. Écoutez cette interview, on a retrouvé ça dans les archives d'Europe 1, interview de Jean-Paul Belmondo en 1962, Bebel, avec Fernand Choisel.
Jean-Paul Belmondo, comment va évoluer votre personnage maintenant?
Moi, j'étais au conservatoire, je jouais des rôles comiques. Je me voyais partant pour une carrière comique, puis tout d'un coup, je me suis trouvé être le héros pour les jeunes. Et ça, évidemment, j'ai tout de suite, après À bout de souffle, qui est un film que j'aime beaucoup et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, mais j'ai senti qu'il y avait un danger pour moi quand même, c'est que si on me mettait dans tous les films avec un chapeau et une cigarette, je crois que ça n'aurait pas duré très longtemps.
Voilà. Et c'est ça le titre de votre série de Belmondo à Bebel, c'est qu'à un moment donné, il a choisi la route de la popularité.
Absolument. Et alors, quand vous dites là, assez justement la route de la popularité, ça a été aussi le travers d'un emploi unique. On va dire qu'à partir de la fin des années 70, on a un Belmondo cascadeur, souvent dans des films policiers, et donc qui prend une route unique. Ce qui est très impressionnant dans l'interview qu'on vient d'entendre, c'est l'incroyable intelligence de cet acteur.
La lucidité.
Absolument, il a tout compris. Il pourrait se dire qu'après être entré d'emblée dans l'histoire, il lui suffit de poursuivre ce chemin, et il comprend tout à fait qu'il va falloir faire autre chose. Mm-hmm. Cette autre chose, c'est par exemple, 2 ans après Au bout de souffle, Léon Morin, prêtre. Il joue un prêtre en pleine seconde guerre mondiale.
Ah, le port de la soutane, hein, vous le racontez bien.
le fameux port de la soutane. Le contre-emploi absolu de Belmondo, de quelqu'un qui est un sex symbole à l'origine et qui devient cet abbé qui dit non aux femmes en permanence.
Samuel Blumenfeld signe de Belmondo à Bebel, série d'été du journal Le Monde. Bon, évidemment, il faut être abonné ou alors acheter le journal. Hein. Je signale que la semaine prochaine commencera une nouvelle série dans Le Monde signée Pascal Robert Diard et... Il y a un autre journaliste dont le nom
Joseph est... Bourgard.
Merci. Consacré à Gabriel Russier.
Absolument.
Merci beaucoup d'être venu dans Culture Média. Je vous signale que le prochain invité apprécie votre série. Hein. J'ai vu passer un tweet. Il s'appelle Vincent Duluc et il est journaliste à l'équipe. Il ne va pas tarder.
Et c'est un très grand journaliste.
Très grand. Merci. Merci à vous.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Ce sera comme avant, un match de foot avec un enjeu au Stade de France, un match de foot retransmis à la télé sur France 2. Ce ne sera pas tout à fait comme avant, un stade aux tribunes très clairsemées et des joueurs testés au Covid-19 avant d'entrer sur le terrain, ainsi qu'un président de la République masqué. Bonjour Vincent Duluc.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au journal L'Équipe, l'une des plus belles plumes qu'il nous soit donné de lire. Et vous avez été frappé par le coronavirus au plus haut de la vague, forme très sévère. Vous avez été hospitalisé 28 jours, dont 3 semaines en réanimation. Je suis vraiment contente que vous soyez là en chair et en os devant moi. Un peu moins en chair, non, on dirait.
Ah oui, heureusement que je n'ai pas tout repris ce que j'avais perdu.
Ouais.
Il y a au moins une chose positive dans tout ça.
Comment allez-vous ? Vous avez récupéré toutes vos forces ?
Je pense que je viens de les récupérer, mais ça fait maintenant 3 mois que je suis sorti de l'hôpital et je sens juste maintenant, à présent, que le foot reprend et que le travail reprend, que j'ai retrouvé à peu près mon énergie. Donc il m'a quand même fallu assez longtemps. Mm-hmm. Ça reste une vraie vacherie que je continue de souhaiter à personne.
Ah oui, oui, non, ça clairement. Et puis on sait que cette vacherie-là, comme vous dites, ce satané virus, peut laisser des traces au long cours. C'est pas votre cas, j'espère.
Non, a priori, tout va bien de ce côté-là.
Mm-hmm. Alors ce soir, il y a à nouveau un match de foot, votre passion. Une compétition, finale de la Coupe de France, avec une belle affiche qui parle, PSG Saint-Etienne. Vincent Duluc, quel est votre état d'esprit à quelques heures de repartir, même si vous n'allez pas au stade ce soir ?
Mais c'est compliqué parce que, déjà naturellement, on a une attitude un peu, enfin, un sentiment un peu schizophrène par rapport à tout ça. On a envie de dire aux gens, faites attention, puis on a envie que la vie reprenne, et puis on a envie que le foot reprenne, mais on n'a pas envie qu'il reprenne dans ces conditions-là non plus, parce que c'est pas tout à fait le foot tel qu'on l'aime, et... C'est pas tout à fait le foot qui fait qu'on parcourt le monde dans les stades pour partager et cette passion et ces moments-là. Donc, c'est vrai qu'un stade de France avec une jauge réduite à moins de 5000 personnes, mais c'est pas le stade de France qui justifie nos pèlerinages habituels. Donc,
c'est ça le plus frappant, l'absence de supporters. C'est ça qui va manquer surtout ou il y a autre chose?
Mais c'est compliqué à identifier parce que finalement, on n'a pas tellement de références pour l'instant. Tout ce qu'on a, c'est le foot un peu silencieux, ou du moins le foot sous assistance de commentaires, enfin de bruit artificiel venant des tribunes que mettent les réalisateurs par-dessus les matchs qui sont en train d'être filmés, mais qui marche assez bien d'ailleurs.
Ouais, il y a du bruitage.
Oui, il y a un bruitage, c'est un bruitage qui marche assez bien. C'est un peu comme dans les scènes de film, sans la musique, ça ne serait pas la même chose.
Ouais.
Et bien le foot, c'est pareil, sans cette musique-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais avec cette musique, ça donne un peu... C'est un peu l'impression que c'est un succès d'année, mais c'est quand même quelque chose. Donc en fait, le match de ce soir, il vient après un grand vide en France. C'est-à-dire que 4 mois et demi sans match, 4 mois et demi sans sport de haut niveau. Donc il va au moins remplir un petit peu ce vide. Mais le fait que les tribunes soient aussi peu pleines, ça rappelle que c'est que ça sera pas forcément une fête, que ça sera un match, mais pas forcément une fête.
Ouais, et puis bizarrerie dans la bizarrerie, cette finale de la Coupe de France est diffusée un vendredi, là où habituellement c'est le samedi, mais place à Fort Boyard.
C'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, voilà, on pensait que le foot était quelque chose de central dans la passion, dans la culture populaire, et finalement, ça ramène peut-être les choses à leur vraie place, mais le foot arrive derrière Fort Boyard.
Bah ouais, c'est comme ça, faut s'y faire. Vous vous sentez partagé, vous, entre votre amour du foot, que j'imagine intact, et puis peut-être une crainte du collectif, c'est ça ?
Non, enfin... Moi, j'ai envie d'être optimiste, voilà. Mais en même temps, j'avais déjà envie d'être optimiste avant de tomber malade. Mais j'ai quand même envie d'être optimiste. Donc la crainte, non, j'y pense pas trop. J'ai plutôt l'envie d'être prudent que la peur que quelque chose arrive. Mais je pense voilà qu'il faut juste rester prudent. Mais là, j'ai envie que la vie reprenne un peu. Et ce soir, ça peut être un signal quand même que la vie reprend un peu. Mmh. Et c'est quelque chose qu'on attendait vraiment depuis longtemps et qu'on aurait pu avoir un peu plus tôt si le foot avait été mieux défendu par ceux qui en avaient la mission.
Ah oui, là j'ai lu votre édito, parce que vous avez recommencé en fait pour le journal de ce matin, pour l'équipe de ce matin, votre éditorial qui commence « Comme des cons, donc nous revoilà longtemps après les autres ». Vous n'êtes vraiment pas tendre envers les dirigeants de la Fédé, c'est ça ?
Mais pas seulement eux. Mais bon, le « Comme des cons » était aussi un renvoi au titre qu'on avait fait pendant la pandémie, c'était un titre de une pour constater que la France était le seul grand pays de foot à ne pas reprendre.
C'est une erreur selon vous.
Mais moi je pense que c'est une erreur. Je pense que la décision a été prise beaucoup trop vite. Je pense qu'elle a été prise pour des mauvaises raisons. Je pense qu'il y a des présidents de clubs qui ont fait du lobby pour qu'elle s'arrête parce que ça correspondait à leurs intérêts. Et je pense que le foot a été nié en tant que culture et en tant qu'activité économique. C'est-à-dire que il a fallu que la vie reprenne, parce qu'économiquement c'était important, mais on estimait que le foot était pas assez important pour reprendre, et c'est ce que je conteste en fait aujourd'hui.
Le championnat français, c'est le seul qui n'a pas repris, hein, au niveau européen, je veux
c'est
dire.
C'est le seul des cinq grands championnats qui n'est pas repris absolument, qui n'est pas allé à son terme, et qui a préféré s'arrêter après une journée qui n'était même pas terminée d'ailleurs.
Alors en plus l'affiche, hein, évidemment, il y a Saint-Etienne en finale, c'est presque une spéciale dédicace pour vous cette affiche, Vincent Duluc.
Alors en tout cas c'est une affiche qui rappelle des souvenirs, parce que c'est la finale mythique de 1982, que le PSG de Francis Borrelli, qui avait embrassé la pelouse, avait remporté au tir au but. Donc c'est finalement une affiche qui nous rappelle que le foot nous ramène sans cesse en arrière ou sans cesse en enfance, et qu'on va un peu voir chaque semaine un peu le même match, ou qu'on cherche un peu la même chose. Et c'est ça qui fait du bien, c'est ce retour-là, oui.
Ouais, je rappelle que vous aviez publié en 2016, un printemps 76, l'épopée des Verts, et aussi celle d'un gamin fou de foot. Un pronostic pour ce soir ?
Bon, j'ai peur que le pronostic soit une prévision quasi exacte et qu'il n'y ait pas un énorme suspense, parce que le PSG est beaucoup mieux armé, le PSG est sans doute aussi mieux préparé, et le PSG a tellement des grandes ambitions qui sont liées notamment au tournoi final de la Ligue des Champions au Portugal dans le courant du mois d'août, qu'il ne peut pas se permettre de laisser filer quoi que ce soit en route.
Mmh, mais 5-0 ou 10-0, c'est ça la question ?
Non, mais... on va rester à des scores de foot, on va essayer de pas être dans l'exagération dès le premier match. Non, mais j'espère que ça sera un vrai match, et même s'il n'y a pas de public, ça peut... Voilà, ça reste du foot et ça nous ramène aussi à la pureté des matchs de récréation quand on jouait devant personne.
On va revenir dans un instant sur l'autre match que vous avez disputé en mars-avril dernier. Vous en êtes ressorti, aviez-vous raconté, avec les jambes de Tigana, et les amateurs de foot comprendront. À tout de suite, Vincent Deluc.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
PSG Saint-Etienne en finale de la Coupe de France de football ce soir. Et Vincent Duluc va la regarder cette finale, l'analyser, la raconter pour le journal L'Équipe. Est-ce que vous avez souvent pensé à ce moment-là, Vincent Duluc, quand vous étiez sur votre lit d'hôpital, ou même après le moment où ça allait recommencer ?
Je ne sais pas, parce que dans les moments difficiles, je me disais plutôt que j'allais changer de priorité, que je verrais la vie autrement, que peut-être que mes passions ne seraient pas les mêmes et que je relativiserais tout ça, le boulot, le foot.
Et au final ?
Bah, au final, j'ai quand même assez envie d'être à ce soir, quand même. C'est-à-dire qu'au final, c'est compliqué de dire... Enfin, voilà, j'ai pas envie de dire que dorénavant, tout sera comme d'habitude, mais j'aime ça, et voilà, et c'est pas cet épisode qui m'en a détourné, en fait.
Mais est-ce que, bon, ça a été très, très compliqué, très difficile pour vous, mais est-ce que toute cette période a au moins eu le mérite de recentrer vos priorités? Ça, c'est vrai, ça existe.
J'aimerais bien. Oui, si, je pense, si, bien sûr. Non, mais forcément, ce qui m'en reste, oui, c'est l'expérience humaine un peu particulière par rapport à ses proches, par rapport aussi aux amis au sens large, par rapport au sentiment parfois de compter pour les gens et d'avoir leur soutien et de ressentir cette chaleur. Et ça, ça compte. Et on se dit que ça, c'est plus important que tout le reste. Donc, voilà. Mais sur le reste j'ai envie de continuer à vivre comme avant, en fait.
C'est ça le plus important, c'est que tout recommence, redevienne comme avant.
C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la nouvelle vie dont je peux avoir envie, c'est d'avoir la même vie qu'avant, en fait.
Et c'est pas tout à fait pour tout de suite encore.
Non, c'est pas tout à fait pour tout de suite, parce que j'ai pas encore probablement l'énergie de la vie d'avant. Ça vient doucement, mais c'est pas encore là. Et parce que le cadre est pas le même. Moi, j'avais l'habitude de partir en Angleterre, je sais pas, deux fois par mois. Donc, j'y suis pas allé depuis 5 mois et ça va encore attendre un moment. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais ce sur quoi ça m'a recentré, c'est que j'aime quand même notre métier. J'ai dit notre, j'aime ce métier-là. J'adore la presse écrite et j'ai jamais autant lu les journaux que pendant toute cette période. Et je trouve qu'ils ont fait un travail formidable pendant tout ce temps.
Pas que l'équipe, hein, l'équipe
pas,
aussi.
Pas que l'équipe.
Parce que
l'équipe,
bon, évidemment, pour l'équipe, c'était très compliqué.
En premier lieu, parce que l'équipe a dû s'appuyer sur rien, sur le vide, soudain le vide. Mais tous les autres, j'ai trouvé que c'était remarquable. Et j'ai retrouvé cette passion du papier, pardon, dont parfois je pouvais m'éloigner parfois, parce que comme tout le monde, on passe le temps sur les écrans et on prenait moins le temps pour le papier. Et là, je suis revenu au papier.
Mmh. Vous, Vincent Duluc, qui aimez par-dessus tout un jeu d'équipe, vous qui travaillez à l'équipe, vous avez aussi affronté les effets du virus seul, parce que c'était ça aussi, cette maladie. Pas de visite possible. Et c'est un aspect qui a dû être très compliqué, non ?
Je pense que c'est le plus dur à vivre pour tous ceux qui rentrent un peu dans les tunnels un peu incertains de la réa. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être conscient tout le temps, en réanimation, de pas être intubé.
Vous dites que ça vous a sauvé, d'ailleurs.
Ça m'a sauvé. On m'a joyeusement menti, et je remercie à tous ceux qui m'ont menti en me disant que j'allais en réa parce qu'il y avait de la place, alors qu'après, j'ai bien vu que j'étais au moment où il y avait le plus de tensions dans les hôpitaux et... Donc, ce n'était pas parce qu'il y avait de la place.
Ah oui, on vous racontait des
ouais,
histoires.
On racontait des histoires, des choses comme ça. Mais en fait, je n'ai pas été seul parce que les soignants et les aides-soignants ont été formidables. Et je regrette qu'ils n'aient pas eu de visage parce qu'ils étaient toujours derrière un masque. Alors, il fallait que je les reconnaisse avec un tatouage, une boucle d'oreille ou une voix.
Ah oui,
je
n'avais pas pensé à ça,
effectivement. Ou une attitude. Ouais. Mais effectivement, tous les gens à qui je dois la vie, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, en fait.
Vous y êtes retourné ou pour les rencontrer ?
Non, je ne suis pas retourné. J'ai beaucoup parlé d'eux dès que j'ai pu, mais je ne suis pas retourné. Mais je compte le faire, je compte le faire. J'espère qu'ils y seront encore. Mais là, je pense que la plus grande difficulté pour les gens qui rentrent dans ce tunnel-là, c'est de ne pas savoir quand on va en sortir. Et de savoir que si on n'en sort pas, ben, ça sera tout seul. Voilà. Je pense que c'est le plus affreux dans cette maladie contagieuse, c'est qu'on s'enfonce là-dedans sans ses proches et que si ça finit mal, on ne le reverra pas. Donc c'est toujours à ça que je pense quand je vois les chiffres, même encore aujourd'hui, du Covid sur les écrans. Quoi.
Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez compris que vous étiez sauvé ou ça ne s'est pas passé comme ça tout à fait ?
Il y a eu plusieurs fois où j'ai pensé que j'étais sauvé et plusieurs fois où on m'a dit « on va quand même attendre 2-3 jours ». Donc à la fin, je me disais, tant que je n'ai pas passé le palier de l'hôpital, je n'y croirais pas. Et
parce que c'était des montagnes russes, c'est ça ?
C'était des montagnes russes. Un jour, on m'a dit que tout va bien, vous sortez demain. Et puis le lendemain, on m'a refait passer un scanner parce qu'ils pensaient que j'avais fait une embolie. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sans arrêt, il y a des hauts et des bas. Donc le jour où j'ai passé le palier, oui, là, je me suis dit, là, c'est bon, quoi.
Ce personnel soignant qu'on évoquait, là, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Les gens qui applaudissent à 20h, etc. Et puis peut-être des gens qui continuent à ne pas avoir la place qu'ils mériteraient dans la société. Vous pensez ça aussi ?
Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont devenus, je ne vais pas dire un variable d'ajustement, mais dans le Ségur de la santé, ils sont devenus en fait, des chiffres, des figures, etc. Alors qu'au plus fort de l'inquiétude, ils étaient nos piliers. Donc moi, je continue de les voir comme des piliers et comme des gens qui nous sont absolument indispensables. Et moi, ils ne m'ont pas seulement soigné physiquement, ils m'ont accompagné moralement tout le temps. Donc j'espérais en sortant qu'on n'oublierait pas ce qu'on a vécu. Et Et j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas du tout. Quoi.
Mm-hmm. Le collectif Vincent Duluc, c'est aussi tous ceux qui vous ont écrit. Et ça, c'est pareil. Il semblerait que ça fasse la différence, non ?
Mais voilà, si les gens se demandent si est-ce que c'est important un message, la réponse est oui. Est-ce que c'est important une pensée ? Et la réponse est oui. J'ai eu la chance d'avoir, parce qu'on va dire on fait un métier un peu médiatique, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et ça compte, ça donne une force, ça donne une énergie, ça transmet de la chaleur, ça transmet de l'optimisme. Et c'est indispensable, il faut le faire. Et il faut d'autant plus le faire avec cette maladie qui effectivement confronte à la solitude et empêche les visites. Mais c'est vital.
Vous-même, vous pensez que vous écrirez un jour sur cette expérience ?
Non, je ne pense pas. J'ai même été réticent après l'avoir raconté à l'équipe assez longuement. J'étais assez réticent à la raconter médiatiquement. Je ne voulais pas avoir l'air d'un malade en tournée, en fait.
Je voulais éviter ça. J'ai un petit rire, mais qui est presque nerveux parce que la formule est terrible.
Mais voilà, ouais. je voulais vraiment éviter ça. Et en même temps, je voulais faire passer quelques messages pour les soignants. Donc c'était un peu ambivalent, mais... Non, je pense pas écrire là-dessus. Enfin, j'en sais rien, à moins que ça me remonte et que ça revienne. Là, j'ai l'impression que c'est encore un peu tôt. Il y a des choses qui me reviennent de temps en temps. Il y a des choses que je peux pas trop voir à la télé, certaines images encore. Même des bips qui me rappellent l'aria. J'ai un peu de mal avec certains bips. Donc, je sais pas ce qui remontera dans un an, dans deux ans. Mais non, je pense qu'il faut mettre ça dans une espèce, d'expérience collective et la mienne et mon expérience individuelle fait partie de cette expérience collective. Et pour ce qui est d'écrire, j'ai l'impression qu'on va avoir assez de livres qui ont traité du sujet, et que, voire même un peu trop.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Vincent Duluc, d'être passé ce matin par Culture Média. On vous lira évidemment dès demain matin dans l'équipe sur le PSG Saint-Etienne. C'est reparti, pas comme avant, mais c'est reparti quand même. On arrive tout doucement vers 10h sur Europe 1. Après les infos, nous serons avec la chanteuse Jeanne Haddad et Julien Cottreau va vous raconter un film d'été culte qui s'appelle L'été meurtrier, ne quittez pas.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clarke.